Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bonjour à vous tous qui êtes là réunis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, juste un petit rappel, si vous l'avez oublié, avant de commencer, nous sommes le 17 janvier et nous fêtons le 155e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Pontmain. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des curés de Notre-Dame des Victoires. Alors pas de tous, parce que ça serait trop long. Alors je vais commencer aujourd'hui et je continuerai et terminerai le mois prochain. Voilà. Alors je vais faire un tout petit rappel historique avant d'évoquer les différents curés de Notre-Dame des Victoires au 19e et début du 20e. Nous sommes en pleine révolution. Un décret du 2 novembre 1790 met en vente les biens du clergé et prononce la suppression des ordres religieux. Les Augustins qui étaient installés ici, dans un couvent qui n'existe plus, malheureusement, durent fermer leur monastère en refusant la constitution civile du clergé. Après leur départ, leur église resta debout et un décret de l'Assemblée nationale du 4 février 1791 l'érigea en église paroissiale sous le titre de Saint-Augustin des Petits-Pères. Alors, un curé constitutionnel en a pris possession. Tout de suite, il se nommait Morel. On croit que ce prêtre jureur ne survécut que quelques mois à son serment et on ignore le nom de son successeur. 1793, c'est l'année de la suppression complète du culte. Les prêtres constitutionnels disparaissent, l'église est fermée. Elle est réouverte peu après à la société de Guillaume Tell, qui y tient ses séances. 3 ans après, un arrêté du directoire daté du 18 niveau de l'an 4 de la République, soit le 8 janvier 1796, y installe la Bourse de Paris. Alors cette installation, elle va durer peu de temps puisqu'elle est transportée après au Palais Royal dans la Galerie Virginie. L'installation définitive eut lieu sous l'emplacement de l'ancien couvent des Filles de Saint-Thomas, donc c'est la Bourse actuelle. Arrive le Concordat. Le 15 août 1801, entre le pape Pie VII et le premier consul Bonaparte, donc un concordat est instauré. Et le jour de Pâques de l'année 1802, une salve d'artillerie salue la première fête chrétienne depuis la Révolution. Les cloches sonnent, les églises de Paris se rouvrent et les Français y accourent en foule. Alors l'église de Notre-Dame des Victoires, elle ne prit pas part à la joie générale et malheureusement ses portes demeurèrent fermées. Alors l'église des Filles de Saint-Thomas, donc sa voisine, fut plus heureuse. Son ouverture eut lieu le 3 avril 1803, tandis que de l'église des Augustins ne fut livrée au culte que le 19 décembre. Et oui, j'insiste, parce qu'on croit souvent, généralement, quand on dit l'église a été fermée, oui, mais elle a été réouverte quand même au culte, partiellement. Et c'est un prêtre, un ancien religieux augustin, le père Rivière, qui fut installé curé de l'église des Petits-Pères, et les offices eurent bien lieu dans l'ancienne sacristie en attendant les réparations nécessaires. Alors, ce que je sais de l'école des Chartes, et ce n'est pas dans les archives de Notre-Dame des Victoires, c'est qu'en 1804, le pape Pie VII vint visiter l'église. Vous savez, il était venu en France pour le couronnement de l'empereur Napoléon. Et en 1807, ce fut Napoléon en personne qui vint ici dans cette église. De 1803 à 1809, les églises de Notre-Dame des Victoires et des Filles Saint-Thomas formèrent deux paroisses distinctes, quoiqu'elles étaient quand même très rapprochées. L'église des Filles Saint-Thomas fut démolie lorsqu'on jeta les fondations de la bourse actuelle. Une ordonnance en date du 27 février 1809 réunit les deux paroisses en une seule, et le 1er avril de la même année, M. Rivière se retira, en gardant toutefois le titre de curé honoraire. Le 11 avril 1809, il eut pour successeur M. Gravé. L'ordonnance de nomination fut signée par le cardinal de Bellois, archevêque de Paris, en date du 20 mars, et une nouvelle circonscription est assignée à la paroisse. Le 9 novembre suivant fut pour les paroissiens un jour de fête. Il s'agissait de réconcilier l'Église, et cette réconciliation tardive s'explique par le temps qu'il fallut employer pour faire disparaître les traces des profanations que l'Église avait subies. Monseigneur de Chabot, évêque de Mende, fut délégué pour présider la cérémonie. La fête était solennelle et un grand nombre de curés de Paris y assistèrent. Le curé de l'église Saint-Laurent fit un discours de circonstance et l'on grava sur le marbre une inscription qui en fixa la date. À peine installé, M. Gravé se mit à l'œuvre. Les âmes des fidèles avaient souffert et il leur donna tous les soins d'un bon pasteur. L'église matérielle ne présentait au regard que des murailles nues et dépouillées. Le brave curé fit de son mieux, il l'embellit et y plaça quelques tableaux dus à la générosité de pieuses personnes. Alors parmi les tableaux qui subsistaient, miraculeusement, il y avait tous les Vandelots qui sont dans le cœur et qui, vous savez, racontent la vie de saint Augustin. Mais il en manquait un, le tableau central, où l'on voit Louis XIII et Richelieu, Louis XIII qui offre Notre-Dame des Victoires à la Sainte Vierge. Alors ce tableau central se trouvait dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles. La cathédrale l'avait récupéré, mais elle refusait obstinément de le restituer. Alors, M. Gravé, c'était un homme têtu. Il ne s'est pas dégonflé. Il a demandé audience à Napoléon. Il lui expose sa requête. Napoléon l'écoute et lui dit « Mon brave curé, rentrez chez vous tranquille, le tableau va vous être restitué. » Et effectivement, le lendemain, le tableau revenait à Notre-Dame des Victoires. Le dernier acte de son administration fut la construction d'un nouveau maître-autel, qui n'est pas celui que vous voyez actuellement. Monsieur Gravé mourut le 11 janvier 1811. Il eut pour successeur Monsieur De Croix, qui devait administrer la paroisse que pendant 3 ans, puisqu'il mourut le 7 septembre 1814. Il fut regretté des pauvres dont il avait été le père et des paroissiens qu'il avait édifiés par sa piété douce et communicative. Alors arrive un autre curé, bien sûr, il se nommait Fernbach. C'était un ancien religieux dominicain et curé de Saint-Philippe-du-Roule. Alors, au dire de ses contemporains, sa parole était énergique et impressionnait vivement ses auditeurs. Il savait se faire respecter et craindre au besoin quand on l'injuriait. Sa vie se passait à l'église, il n'en sortait que pour visiter les malades et les pauvres. Il accueillit le 7 mars 1826 le roi Charles X, qui vint à Notre-Dame des Victoires avec toute la cour, pour faire sa station du jubilé. Pendant son administration, qui dura quand même 19 ans, M. Fernbach s'appliqua constamment à réparer les dégâts de la Révolution. Il eut la joie de remplacer les cloches enlevées lors de la tourmente révolutionnaire. Deux cloches furent bénites le 25 mars 1819 et deux autres le 27 novembre 1828. Malheureusement, en 1832, le choléra sévissait à Paris. Il y eut des milliers de morts et M. Fernbach fut une des premières victimes de ce fléau, quoique j'ai lu à l'époque une rumeur circuler qu'il avait été victime d'un empoisonnement. Mais ça, c'est une rumeur. Et le 27 août 1832, un nouveau curé arrivait donc, M. Desgenettes. Alors lui, il va rester jusqu'à sa mort le 25 avril 1860. Il était auparavant curé de Saint-François-Xavier des missions étrangères de Paris. Alors j'ai beaucoup parlé de M. Desgenettes, je crois que je l'évoque pratiquement à chaque conférence parce que c'est le personnage incontournable de Notre-Dame-des-Victoires. J'ai fait des conférences sur lui, donc je ne vais pas recommencer à vous parler de lui. Je vous rappellerai simplement qu'il a quand même consacré sa paroisse au cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs en 1836 et il a fondé dans la foulée l'archiconfrérie. Alors son successeur arrive après la mort du père Desgenettes, c'était le père Chanal, qui était auparavant curé des Invalides. Sous sa direction, l'archiconfrérie vit se multiplier les pèlerins. M. Chanal était très heureux de voir son église sans cesse envahie par ses innombrables fidèles. Ce bonheur allait cesser malheureusement le 5 avril 1871. Le curé, prévenu qu'on allait l'arrêter, dut céder aux instances des amis qui lui offraient un refuge. Donc il ne fut pas témoin des scènes lamentables qui se produisirent. Il ne vit pas le pillage des autels. Les ossements des anciens religieux et des personnes inhumées dans la crypte, arrachés de leur tombe. Le cercueil reposait à l'autel de la Sainte Vierge M. Desgenettes, ouvert et profané. Les reliques de Sainte Aurélie foulées aux pieds, les ornements, les vases sacrés enlevés, et de nombreux ex-voto détachés des murs et devenus la proie des spoliateurs avides. Ce fut seulement le samedi 3 juin que M. Chanal put rentrer dans son église dévastée. Son premier soin, bien sûr, fut de la réconcilier. La cérémonie eut lieu en présence du clergé et du conseil de fabrique. Plusieurs prêtres de ce clergé avaient été otages et retenus de longs mois en prison. Ils n'avaient échappé à la mort que par une protection visible de Notre-Dame des Victoires. Une lourde tâche atteint donc M. Chanal. L'âge et les émotions de la commune avaient ébranlé sa santé et il se crut impuissant à relever les ruines et donc il remit sa démission à l'archevêque de Paris, Monseigneur Guibert, qui lui conféra le titre de chanoine titulaire de Notre-Dame de Paris. Il mourut le 12 juillet 1875. Et il fallait donc, dans ces circonstances douloureuses, un prêtre encore jeune, actif, capable de se dévouer entièrement à son Église. Et le choix de Monseigneur Guibert s'arrêta sur M. Chevaujon, qui avait à l'époque 52 ans. L'installation se fit le 30 mai 1872, jour où on célébrait le 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Alors je vais m'attarder un petit peu sur lui. Alors c'est une belle figure. Et puis aussi, je vous raconterai le mois prochain tout le travail qu'il a effectué pour réparer les dégâts qui avaient été commis dans cette église. Alors, en ce moment, nous avons un curé peintre. Eh bien, M. Chevaujon, lui, c'était un curé poète. Il écrivit de nombreux poèmes et cantiques. Il était né en 1820 à Sœurs en Côte d'Or et il entra à l'âge de 11 ans au petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, dirigé à l'époque par l'abbé Dupanloup. Il fut ordonné prêtre le 29 mai 1847. Il exerça plusieurs ministères, le premier comme président d'études au petit séminaire de Notre-Dame-des-Champs, puis vicaire à Saint-Nicolas du Chardonnay durant un an, et c'est à Saint-Roch où il fut appelé en 1849 que commença son vrai ministère, le ministère de toute sa vie. À cette époque, plusieurs prêtres se donnaient avec ardeur à l'enseignement religieux de la jeunesse. L'abbé Chevaujon, nommé directeur du catéchisme de Persévérance, se révéla un apôtre catéchiste et éducateur chrétien. Ce catéchisme datait du Concile de Trente et fut publié par Saint-Pie V en 1566. Il fut remis aux pasteurs comme leur propre aliment spirituel et pour l'enseignement des fidèles, une arme contre l'hérésie, un remède à l'ignorance et le moyen d'apprendre aux hommes la science du salut. Un témoignage rend compte de son action. L'abbé Chevaujon dirigea le catéchisme d'une façon remarquable, avec un zèle et un talent supérieurs. La conception claire et complète du cours d'instruction religieuse, les homélies variées, pratiques et pleines de foi, le soin du chant des cantiques, dont plusieurs étaient de lui, tout était conçu par lui et exécuté par tous ses auxiliaires de façon à former un catéchisme modèle. En 1859, l'abbé Chevaujon fut nommé deuxième vicaire à Sainte-Clotilde. Il continua le ministère du catéchisme. Ce fut la même œuvre, continuée, élargie. Sa compétence était notoire. Des prêtres témoins du bien qu'il faisait s'étaient formés à son école. Étant encore à Sainte-Clotilde, il publia le nouveau manuel des catéchismes. Et en 1864, il est nommé premier vicaire à Saint-Denis du Saint-Sacrement. Il s'occupa là encore de la jeunesse et prit un soin particulier des enfants de Marie. À propos du catéchisme du Concile de Trente, on rapporte que César de Bus, qui a été canonisé par le pape François en 2022, ayant lu le catéchisme du Concile de Trente, en fut ravi et forma le projet d'établir une congrégation dont le principal emploi serait de l'enseigner. Benoît Labre suivait au Colisée, lui, le catéchisme des enfants abandonnés. César de Bus est le fondateur des frères de la doctrine chrétienne. Alors, j'en reviens à l'abbé Chevaujon, qui, en 1868, est nommé curé de Saint-Ambroise. La paroisse comptait à l'époque 70 000 âmes, mais elle était surtout riche, malheureusement, en pauvres. Il trouva des œuvres établies pour l'enfance, pour la jeunesse, pour les pauvres, les malades, les ouvriers, les vieillards, même pour les corporations et les étrangers. Une messe était dite tous les dimanches pour les Alsaciens et les Lorrains de langue allemande, nombreux dans ce quartier. L'année 1869 fut entièrement consacrée à la translation du culte dans un nouvel édifice, qui est l'église actuelle. L'église de l'époque était devenue trop petite face à une population dont le nombre augmentait sans cesse. La construction avait duré 6 ans. Le 21 mars 1869, l'abbé Chevaujon put célébrer la première messe au Grand Hôtel. Le 29 avril de la même année, la bénédiction des cloches eut lieu en présence de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Joséphine, qui avait accepté de parrainer l'une d'elles. Le 11 novembre de la même année, eut lieu la remise officielle de l'édifice à Monseigneur Surat, qui était vicaire général du diocèse de Paris. et qui fut fusillé le 27 mai 1871 avec l'archevêque Monseigneur d'Arbois et d'autres prêtres. La crosse de Monseigneur Surat se trouve aux archives à Notre-Dame des Victoires. Les occupations multipliées de sa charge ne lui permirent pas de faire lui-même le catéchisme. Arrive la guerre de 1870, puis la Commune. À Saint-Ambroise, le curé se trouve dans un péril imminent et il doit quitter la cure. Le 23 avril 1871, l'église fut visitée. Le 6 mai, les ornements furent volés et le lendemain vit l'ouverture du club des prolétaires. L'église était devenue le quartier de l'insurrection avec un important arsenal. L'édifice, exposé au feu des barricades, avait subi de nombreux dégâts. À l'intérieur, sauf l'autel et le tableau, tout avait souffert. Le curé put enfin retrouver sa paroisse le 31 mai et commencer à entreprendre les travaux de restauration nécessaires, à fournir le mobilier et les ornements, et enfin pouvoir à la solennité du culte. Et le 30 mai, donc, il était nommé curé de Notre-Dame des Victoires. Il venait de quitter une paroisse meurtrie et prenait une possession d'une église encore plus meurtrie que l'église de Saint-Ambroise. L'abbé Langénieux, qui était à l'époque vicaire général et qui deviendra dans les années suivantes cardinal archevêque de Reims, présida la cérémonie en s'adressant au nouveau curé. À cette heure, Dieu vous accorde tout ensemble une grâce de prédestination et en même temps le plus considérable de tous les ministères que renferme cette grande ville de Paris. D'abord, une paroisse qui est liée dans ses origines à nos événements les plus importants dans l'ordre politique et religieux. Puis une œuvre catholique, l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires, dont Pie IX a pu dire qu'elle est tout ensemble une œuvre de Dieu et un secours providentiel, une assistance inespérée qu'il envoie à son Église dans des temps souverainement difficiles. Et notre nouveau curé prit à cœur sa mission de directeur de l'archiconfrérie en s'adressant à ses membres dès le début de son ministère. L'archiconfrérie m'est confiée. Je lui dois tout mon dévouement, c'est-à-dire un amour sans réserve. J'aime tout ce qui la constitue, tout ce qui la touche et l'intéresse. J'aime le sanctuaire où elle est née. J'aime son autel. J'aime ses murs couverts de témoignages de la puissance de la Sainte Vierge invoquée et de la reconnaissance des âmes. J'aime toutes ces assemblées, tout ce qui s'y dit et s'y fait au nom et à l'honneur de Marie. Ce que je désire, ou plutôt ce que je veux, c'est ce qu'ont fait mes vénérés prédécesseurs. Je veux être ici un instrument actif, sans doute, mais le plus humble et le plus docile. Malgré la joie qui remplissait son âme, je dirais pour terminer que le nouveau pasteur pouvait dire comme David dans le psaume 114, « J'ai trouvé l'affliction, l'affliction et la douleur. » Voilà, je vous raconterai ce qu'il a fait après, dans les années qui ont suivi, et je peux vous dire qu'il a accompli un travail colossal. Mais il n'était pas seul. Marie était avec lui. Merci. Bon après-midi.